France Culture.
Je crois qu'aujourd'hui, il manque la structure. Il faut qu'un degré d'hygrométrie soit constant. Il faut avoir les objets dans des conservations sans parasites. Il faut avoir des gens qui sont capables de traiter les objets s'il y a un problème, de les nettoyer, de pouvoir les restaurer, de pouvoir les présenter, de pouvoir les mettre en scène. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas en Afrique.
Bon, je pense que c'est une idée qui est propre à l'Occident et je pense que les Africains n'y croient pas beaucoup. Parce que c'est aussi une manière de dénier aussi aux personnes à qui on a pris ces objets la capacité de les conserver, de les garder eux-mêmes. Et moi, je ne pense pas forcément que pour certains objets, le musée soit forcément le meilleur lieu au fait pour les conserver. Parce que le musée peut être aussi destructeur pour certains objets. Surtout des objets qui viennent de la culture immatérielle, par exemple. Parce qu'il y a des objets, au fait, qui revêtent du monde du secret. Ou, par exemple, il faut être initié avant de les toucher. Donc, ce genre d'objets, quand ils rentrent au musée, il y a le côté sacré qui est complètement abandonné au nom de la laïcité. Et donc, il fait que, progressivement, on désacralise, au fait, l'objet.
Musée, la réinvention permanente. Une série de Christelle Le Polotec et Agnès Catou. Quatrième épisode, le temps des restitutions. La question des spoliations et des restitutions qui agite tout particulièrement le monde des musées depuis la publication en 2018 du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoie n'est pas nouvelle. On pourrait même dire qu'elle remonte à la constitution des collections des musées français, depuis la Révolution, le Consulat, puis l'Empire. Les campagnes de Napoléon sont l'occasion de pillages et de spoliations. Un butin de guerre destiné à faire du musée du Louvre le plus grand musée du monde et affirmer la supériorité militaire de la France. L'arrivée de certaines œuvres comme l'Apollon du Belvédère prise au Vatican déchaîne les passions des visiteurs. Mais après la chute de Napoléon à Waterloo en 1815, les royaumes d'Europe exigent le retour de leurs œuvres. C'est le premier temps des restitutions.
La restitution ne s'est pas faite en réalité au moment de la première restauration, elle s'est faite au moment de la seconde restauration.
Dominique Poulot, historien.
Parce que les enjeux étaient devenus beaucoup plus importants pour la coalition des adversaires de Napoléon. Et cette restitution a un caractère absolument symbolique, ce que disent très bien les diplomates anglais. Il s'agit de punir l'arrogance française, de détruire les trophées de la fierté militaire française. Et il serait absolument indécent de laisser aux vaincus le butin qu'il a accumulé pendant la période où il était vainqueur. Donc il y a très nettement une décision de vengeance, on pourrait dire, autant qu'une décision qui répondrait à des lois juridiques internationales concernant l'interdiction des pillages des biens des vaincus.
Saskia Cousin, vous êtes professeure de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. À partir de quand vous diriez que ces questions ont commencé à se poser avec acuité? Et est-ce que, par exemple, les premières restitutions au début du XIXe siècle sont un modèle pour ce qui se passe aujourd'hui ou absolument pas?
Alors, les premières restitutions ne sont que très peu évoquées. Les premières restitutions, c'est à la suite d'une défaite. Donc, la France conquiert des pays, ramasse les œuvres avec l'idée que le pays de la liberté doit accueillir les œuvres de la liberté, comme le décrit si bien Bénédicte Savoie. Et puis ensuite, perd la guerre et donc doit restituer. Et donc, il y a un imaginaire du désastre qui peut-être influence les oppositions aux restitutions. Et ça, on peut dire que ça s'inscrit peut-être dans cette histoire du 19e. Ça, c'est le premier moment. Ensuite, il y a le moment, dans les grands moments, il y a le moment après la Seconde Guerre mondiale qui concerne la restitution aux familles juives spoliées pendant la guerre. Donc, c'est des restitutions aux familles spoliées.
80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la restitution des œuvres spoliées aux familles juives n'est toujours pas achevée. Entre 1945 et 1950, sur les 60 000 œuvres d'art revenues d'Allemagne, 45 000 ont pu être rendues à leurs propriétaires ou à leurs héritiers. Parmi les 15 000 œuvres non réclamées, 13 000 ont été vendues et 2 200 ont été confiées aux musées nationaux. On les appelle MNR, Musées Nationaux Récupération. Exposés sans qu'ils soient fait mention de leur origine ou remisés dans des réserves, personne ne se préoccupera de retrouver leur propriétaire pendant plus de 40 ans. Il faudra attendre la fin des années 90 et la création de la CIVS, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, pour que le sujet ne réapparaisse dans le débat public. En 2013, un rapport sénatorial préconise une nouvelle impulsion à la recherche de provenance, mais en plus du manque de réactivité des musées, les procédures de restitution restent compliquées. Depuis 1950, sur les 2200 œuvres MNR, seules 179 ont été rendues aux familles.
Le public des musées est très intéressé par la question des spoliations, des restitutions.
Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au musée de Besançon.
Si bien que l'année dernière, en 2024, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon a décidé de remettre en valeur 3 œuvres parmi la quinzaine d'œuvres musées nationaux récupération MNR, comme on dit dans notre jargon, qui lui avaient été confiées par l'État français dans les années 50. Ce sont des œuvres qui ont été donc spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'ont toujours pas retrouvé leur légitime propriétaire. Et le musée de Besançon, comme les autres musées de France qui ont tous reçu un certain nombre de ces œuvres MNR, parce qu'il en subsiste quelques milliers, doivent normalement être exposées à la vue du public et n'être jamais remisées en réserve. Et l'année dernière, nous sommes repenchés sur cette question à la conservation. Nous nous sommes aperçus que 3 peintures, malheureusement parmi la quinzaine que nous avions, étaient en réserve depuis longtemps. Donc on a décidé de les ressortir et de les présenter sur une petite cimaise à l'entrée du musée avec un appareil de texte et de cartel qui explique le statut de ces œuvres et leur histoire et l'attente dans laquelle elles se trouvent de retrouver leur légitime propriétaire.
Et il y a quand même un petit Gustave Courbet.
Absolument. Il y a un petit Gustave Courbet. Il y a une œuvre anonyme française du XVIIe siècle qui renvoie à une tradition religieuse byzantine qui est le culte du Saint-Suaire. Et puis il y a une œuvre italienne du XVIIIe siècle. Donc il y a effectivement voilà, ces œuvres MNR, elles sont de toute période. On a d'ailleurs plusieurs Courbets parmi les MNR.
Et comment elles sont arrivées en votre possession, ces œuvres ici à Besançon ?
Alors elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à l'État français. Ça a été une législation spécifique qui a été prise par l'État français après la Deuxième Guerre mondiale et tout le travail qui a été fait sur les œuvres spoliées. Beaucoup d'œuvres ont été rendues à leurs propriétaires dans les années qui ont suivi 1945, plusieurs milliers, mais un nombre résiduel n'a pas retrouvé son propriétaire. Et l'État a donc n'est pas propriétaire. Je me suis trompée dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'État n'est pas propriétaire. L'État est en fait le dépositaire et il sous-dépose, comme on dit dans notre vocabulaire, ses œuvres dans différents musées de France parce que comme chaque musée doit les exposer, il y en a, si je me souviens bien, je crois que c'est 2000 œuvres encore en attente de retrouvailles. Donc il y en a un peu partout en France.
Et cette obligation de les présenter au public, elle est assez récente.
Non, elle fait partie vraiment de la législation telle qu'elle a été pensée dès le départ. Simplement, elle n'a pas toujours été respectée par les musées.
Alors on peut dire que d'une certaine manière, les grandes difficultés qu'on a pu observer pour retrouver, inventorier et restituer les biens spoliés aux familles juives, et ça n'est pas terminé. On retrouve exactement le même dispositif, système pour les biens culturels africains, mais pas seulement, hein, aussi d'Amérique du Sud. À partir des années 60, mais en fait les demandes des biens culturels africains ont lieu dès les spoliations. On trouve, je crois, une amie a fait une recherche dans les archives, donc le roi Béhanzin, la première demande date de 1906, je crois, en tout cas de son frère, Agboli Agbo. Donc les biens qui ont été restitués en 2022 par la France à la République du Bénin sont ceux qui ont été spoliés pendant la conquête en 1892. Mais les premières demandes sont très anciennes. Donc Il semblerait que c'est tout début du 20e, et puis ensuite 2005 par la famille de Béhanzin, et puis par l'État du Bénin à partir de 2016. Mais encore une fois, la France ne restitue qu'aux États.
Mais ce qui est étrange, ce que je ne soupçonnais pas du tout, c'est qu'en fait, ces demandes de restitution, elles ont pu intervenir alors que les pays étaient encore colonisés.
Oui, parce que ce sont des demandes de restitution qui sont faites par les familles spoliées, donc les royaumes notamment. Et Nanette Snoop donc, raconte aussi dans ses musées en Allemagne, il y a des courriers qui arrivent du monde entier, les gens veulent récupérer leurs choses, leurs biens de famille en fait. Sauf que ces courriers ne sont jamais pris en compte parce qu'ils ne passent pas par la procédure attendue, ils n'émanent pas d'État. C'est souvent des familles qui s'adressent au directeur du musée qui conserve ce bien-là et donc ils ne sont pas identifiés comme une demande de restitution telle qu'elle doit l'être dans le droit français. Les premières restitutions, par exemple, dans cette région-là, c'est les années 30 au Nigeria. Dans les années 60-70, il y a un grand mouvement de demande de restitution qui est bloqué systématiquement. Dans les années 80, il y a un certain nombre de rapports qui sont pour la restitution, qui ont été faits en France, en Allemagne, etc., qui n'ont toujours abouti à rien. Et puis, on a cette reprise-là qui commence, on va dire, dans les années 2000. Et puis, il y a ce mouvement qui va s'enclencher. 2016, le gouvernement du Bénin fait une demande officielle à l'État français, reçoit une fin de non-recevoir. Et puis, 2017, il y a ce célèbre discours du président Macron, qui va entraîner, en fait, un mouvement dans beaucoup de pays occidentaux, en fait, d'une certaine manière, la France était partie en premier, mais s'est fait totalement dépasser dans la course, parce que c'est aussi des enjeux en termes de soft power, de positionnement, où les autres pays ont restitué des milliers d'objets.
Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens.
Emmanuel Macron, 28 novembre 2017.
Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Oui, la situation en fait qui se joue après la chute de Napoléon est tout à fait emblématique de toutes les situations à peu près de restitution, c'est-à-dire que ceux qui demandent le retour de biens, le plus souvent, ne connaissent pas exactement le détail de ce qui leur a été pris. Les pays spoliés, les pays pillés, ont demandé les œuvres dont ils avaient connaissance, mais sans savoir où exactement ces œuvres se trouvaient. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas si les œuvres avaient été conservées à Paris, dans tel musée, ou bien expédiées dans un musée de province. Ils n'en avaient qu'une idée assez vague. Ils se posaient aussi d'énormes difficultés d'emballage, tout simplement, et de transport, et de fragilité des œuvres, qui avaient souvent pas mal souffert dans un premier transport, et qui auraient souffert encore davantage lors du retour. Ce qui fait que les demandes portent sur des œuvres iconiques, médiatisées, et c'est à travers les journaux ou les médias que les demandes de pays africains, notamment, s'exercent, parce que tout simplement la connaissance du reste ou la connaissance de l'ensemble de ce qui a disparu n'est pas produite. Elle n'est pas produite par les musées occidentaux et elle est inconnue de ceux qui en ont été privés. Donc dans cette espèce d'incertitude, d'une part on ne demande que des pièces absolument connues et d'autre part on laisse passer, si j'ose dire, à travers les mailles du filet, pas mal de choses. Ce qui s'est passé dans le cas des musées français qui ont pu conserver effectivement des œuvres italiennes, par exemple.
Un an après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, le rapport de Bénédicte Savoie et Félimine Sarr, en novembre 2018, recommande l'intensification du dialogue international, l'accès aux archives et aux recherches, mais aussi la restitution des objets acquis illégalement, dans un contexte de violence et de domination. Alors que 90% du patrimoine de l'Afrique subsaharienne est détenu dans des collections occidentales, le rapport a des répercussions partout en Europe. En 2021, le musée ethnologique de Berlin, qui dispose d'une certaine autonomie, annonce le retour des bronzes du Bénin. En France, où les collections appartenant à l'État sont considérées comme des biens inaliénables, la situation est plus compliquée et les restitutions se font au cas par cas.
C'est une exposition express qui s'ouvre aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris.
26 octobre 2021.
26 œuvres du Bénin vont être présentées durant seulement 6 jours. Elles seront ensuite restituées à leur pays d'origine. Bonjour Bénédicte Savoie. C'est la première fois que la France rend des œuvres dans ce cadre-là?
Non seulement c'est la première fois que la France le fait, mais c'est la première fois qu'un pays européen, anciennement puissance coloniale, rend un ensemble si important à un pays d'Afrique. Donc on peut vraiment dire qu'on est face à un événement historique sans précédent.
Et de quoi s'agit-il exactement? On parle de trésors du Bénin, c'est quoi ces objets?
On parle à juste titre de trésors du Bénin. Parfois, on semble dire que rendre 26 objets, c'est très peu. Mais ces objets, d'abord, ce sont des sculptures dont certaines sont de très grande taille. Elles représentent des personnages à tête d'animal et à corps humain. Et elles jouaient un rôle très important à la cour du roi, qui a été défait par l'armée française à l'époque, le roi Béhanzin. Elles ont, probablement jusqu'à aujourd'hui, pour certains en tout cas, des puissances magiques. Elles devaient protéger le roi. C'est ce qu'on appelle des régalia, donc des œuvres dynastiques en fait, et des choses qui appartiennent à son palais.
Le ministère de la Culture, ces dernières années, a beaucoup avancé sur ces sujets-là.
Émilie Girard, présidente de l'ICOM France.
Il y a eu deux lois cadres qui ont été déjà promulguées. Une première sur les biens issus de spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale et une deuxième sur les restes humains. Ce sont des lois qui précisent le cadre de la sortie des collections nationales pour restitution de ces deux catégories de biens, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les biens inscrits dans les musées de France sont insaisissables, imprescriptibles et inaliénables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en théorie vocation à sortir des collections, mais et pour ces catégories de biens où la provenance frauduleuse, illicite ou douteuse des biens peut être mise en avant, on a aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de cadrer ces sorties des collections nationales pour restitution. Il y a une troisième loi qui était en préparation sur les biens provenant de contextes coloniaux qui, pour l'instant, est encore en travail.
Mais moi, je trouve ça extrêmement excitant sur le plan aussi professionnel.
Anne Lafont, historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS.
D'être face à des choses qui étaient considérées acquises et qui avaient été complètement naturalisées dans leur existence dans ces collections-là, et tout à coup, par une pression sociale, en fin de compte, hein, par la pression des communautés, de publics potentiels, et par aussi des pressions gouvernementales d'ailleurs, il y ait une nécessité de reprendre en charge la notion même de patrimoine. Et ce pourrait être saisi comme une occasion finalement de repenser le musée en grand. Et puis moi, alors la notion de retard ou du temps qu'il faudrait pour ça ne m'effraie pas, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un alibi. C'est pas parce qu'on est en retard, si tant est qu'on l'est, les choses arrivent aussi parce qu'il y a des gens qui se mobilisent pour les faire valoir, hein. Ça arrive maintenant. C'est pas parce qu'on est en retard qu'on ne peut plus rien faire et qu'on ne peut pas prendre le temps de le faire bien aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vider toutes les collections européennes ou occidentales pour essayer une répartition sur des origines qui d'ailleurs ne fonctionnent plus tout à fait parce que les sociétés ont évolué aussi. Mais se poser la question vraiment de ce que c'est, ne serait-ce que la dissymétrie des collections. Je veux dire, de se dire quand même, nos réserves sont pleines, il y a des lieux où il y a une rupture finalement du lien territorial, on peut dire, avec des objets, du lien rituel avec des objets. Donc toutes ces questions-là devraient être à l'ordre du jour de manière primordiale. Et ça n'est pas le retard, ça n'est pas le temps que ça va prendre, c'est le fait de ne pas prendre directement en question ces enjeux-là, qui doivent pousser à une réflexion sur la notion même de propriété. Si un patrimoine est universel, comment peut-il être exclusivement articulé à une propriété nationale? Ça ne va pas. Donc toutes ces questions-là, c'est pas pour nier le fait que ça a des répercussions qui sont complexes. Prenons le temps de la complexité, mais mettons-le à l'ordre du jour aujourd'hui.
Est-ce qu'ici, au musée de Besançon, vous avez été confrontée, Amandine Royer, à des questions de restitution, de spoliation, de retour?
Alors, relativement peu, parce que nos collections ne s'y prêtent pas beaucoup, en tout cas pas pour ce qui concerne les questions de restes humains, puisque les collections que nous conservons de ce type sont des momies égyptiennes et non pas d'autres restes humains liés à d'autres civilisations ou communautés culturelles.
Et l'Égypte ne les réclame pas ?
À ma connaissance, l'Égypte ne les réclame pas, mais peut-être que mes connaissances ne sont pas à jour sur ce sujet.
Lotte Arndt, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1. Est-ce qu'il y a des spécificités, notamment quand il s'agit de restes humains ?
Alors, d'un côté, il y a très certainement des spécificités parce qu'il y a ce que la chercheuse Britta Lange appelle des collections sensibles, donc des collections avec une histoire de violence, de non-consentement, souvent de meurtre dans le cadre colonial et de leur présence incontestée aujourd'hui dans les collections. Après, le choix de séparer les lois sur les restitutions des restes humains des biens culturels est un choix politique et un choix qu'on peut aussi contester, qui est assez peu discuté en France actuellement. Quand on regarde l'histoire de l'acquisition de ces collections, souvent, les restes humains, les collections naturalistes et les biens culturels entrent au même moment dans les musées et vont participer à un même discours colonial sur ces populations, sur ces endroits sur lesquels on développe une science, on développe des savoirs. Du coup, le fait de séparer aujourd'hui la question de la restitution, de la diviser en différentes catégories, peut aussi être un sujet à discussion, un sujet à critique. Alors que cette critique, elle n'est pas vraiment menée. La loi sur la restitution des restes humains, elle est passée. Alors que celle sur les biens culturels, elle est toujours suspendue. Bon, elle ne se passe pas actuellement.
La restitution, c'est un transfert de propriété.
Saskia Cousin.
Il peut y avoir des restitutions sans retour. Il peut y avoir des retours sans restitution. Donc la restitution sans retour, c'est le cas du Nigeria. Donc ils récupèrent la propriété de leurs biens, mais ils en laissent comme objet ambassadeur. Ça n'est plus des objets otages, c'est des objets ambassadeurs. Il y a une œuvre qui est au Quai Branly, qui est dans ce cas-là. Elle avait été volée, et pour éviter un incident diplomatique, le Nigeria a accepté de le laisser en dépôt au musée du Quai Branly. Mais c'est bien la propriété du Nigeria. Et puis il y a également des retours sans restitution, ce qui a été le cas des biens qui sont maintenant restitués au Bénin, qui sont venus une première fois en 2005 en exposition. Ensuite, il y a une loi de restitution et ces objets, finalement, sont devenus propriété de l'État du Bénin. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas de loi qui a été votée sur la restitution des biens culturels africains, hormis cette loi d'exception qui concerne les 26 biens du Bénin et le sabre au Sénégal, tous les autres sont en dépôt, c'est-à-dire ils continuent d'être la propriété de l'État français.
C'est un objet d'art symbolique et cher à l'histoire sénégalaise. Ce sabre, exposé au tout jeune musée des civilisations noires de Dakar, est celui d'Eladj Omar Tall.
17 novembre 2019.
Un trésor de guerre français, pris de force en 1894 par le colonel Louis Archinard. Jusqu'alors exposé au musée des Invalides à Paris, sa restitution était très attendue par le directeur du musée.
Ça fait la troisième fois qu'on nous le prête. Ça fait la troisième fois que la France nous prête ce qui nous appartient. Bien évidemment, on est content que cette fois, que ce soit un voyage sans retour. Allez, simple.
En fait, la question qui est la question, à mon sens, centrale, c'est la question des relations. Et en fait, si on regarde les choses d'un point de vue historique long...
Benoît de l'Étoile, anthropologue et directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac.
Ce qui est très intéressant, c'est que ces objets ont été collectés, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, avec différentes idées. Mais la première idée, c'est que ces cultures vont disparaître. elles sont vouées à disparaître devant le progrès de la civilisation, c'est-à-dire en gros devant une idée d'une occidentalisation progressive du monde. Et dans le cas de la colonisation française, c'est explicite au XIXe siècle, c'est qu'il faut que tout le monde, plus ou moins, adopte le modèle français, etc. Enfin, bon, donc, en fait, on dit, on va conserver ces objets qui seront des traces, justement, d'un passé de l'humanité, de même qu'on a des traces du Moyen-Âge ou des traces de l'Empire gallo-romain, et on va conserver ça. Il faut en préserver des éléments qui serviront de témoins historiques, voire pour les descendants. C'est ce que disait Marcel Mauss. La France a une mission envers les descendants des gens qui sont actuellement en Afrique, parce qu'ils seront contents de voir les objets qui étaient ceux de leurs ancêtres. Donc déjà, il y a une espèce d'idée de préservation pour les descendants d'une culture qui aurait disparu. Et ce qu'on voit au contraire aujourd'hui, c'est que dans tout un ensemble de régions du monde, les gens retrouvent un lien par rapport à des objets, ou par rapport à des photographies, ou par rapport à des musiques, ou par rapport à des films, qui est finalement une forme de réappropriation. C'est le cas du Bénin, où les objets, les trésors royaux du Bénin, étaient devenus des symboles nationaux. Donc effectivement, ils ont été enlevés après une guerre et une conquête des palais d'Abomey. Ils ont été rapportés par le général Dodds et donnés au musée de Trocadéro à la fin du 19e.
Comme des trophées
Comme des trophées, effectivement, d'une expédition qui était donnée. Et donc les objets ont été revendiqués d'abord au départ par la famille des descendants de Béhanzin, et puis ensuite par l'été devenu une revendication de l'état actuel du Bénin, et les 26 objets demandés ont été rapportés au Bénin et ont été fêtés là-bas au Bénin. Je veux dire, c'est que il y a des cas où c'est vraiment où ces objets ont vraiment du sens. Donc en fait, c'est cette idée finalement de comment est-ce que des objets aujourd'hui sont revitalisés et créent des liens. Un des cas, en fait, c'est la restitution. Si elle est conçue comme étant la fin des relations, en disant, voilà, vous reprenez ce qui est à vous, etc., ça peut être très bien dans certains cas, mais c'est un peu limité. Si elle est pensée comme, justement, un mode de relation, et d'autres façons de créer des modes de relation, ça me paraît beaucoup plus riche et intéressant.
Alors, en France, on peut dire que la question de la restitution n'a pas été accueillie avec un enthousiasme débordant par les responsables des institutions. Ça remet en cause l'idée qu'il faut avoir toutes les collections du monde entier pour accueillir le monde entier et qu'on aurait toute légitimité dans les grands musées du monde à avoir accumulé toutes les collections parce qu'on serait le centre du monde. L'idée que c'est forcément en Occident que se situe l'universel est quand même extrêmement problématique. Et donc cette espèce d'accumulation primitive de toutes les collections du monde vise évidemment à accueillir tous les publics du monde, dans un enjeu notamment touristique. Mais cette fantasmagorie qui est liée aussi à l'esprit universaliste dit à la française, en fait est un peu bousculée par l'idée que en quoi on a légitimité à accumuler toutes les choses des autres. Il se trouve qu'en raison de l'histoire coloniale notamment, l'immensité des collections du monde entier sont conservées en Europe. C'est pas parce qu'on peut faire état de ça que ça a vocation à être légitime. Cette notion du musée universel, elle est née à la Révolution, il y a cette idée-là, mais c'est quand même aussi à un moment donné où on fait les guerres et ramasse des choses du monde entier. Donc c'est le même système, en fait, de dire que le monde entier est à Paris et que donc, tout le monde peut venir faire du tourisme à Paris. Non. Un jeune Péruvien, un jeune Nigérian, un jeune Bangladeshi ne va pas venir découvrir l'histoire de son patrimoine à Paris. Cette notion du musée universel, elle a un peu disparu. Elle est revenue en 2002 avec la déclaration des musées universels, dont la moitié consiste à expliquer qu'il n'est pas possible de restituer parce que sinon on mettrait en cause le musée universel. Donc la déclaration du musée universel en 2002 avait pour finalité d'empêcher les restitutions. Et ça, on l'oublie parfois, il y a eu des travaux là-dessus, mais c'était quand même... Voilà. Et donc aujourd'hui, on revient avec ce discours sur le musée universel qui renaît au moment même où les pays les premiers concernés demandent le retour de leurs choses. parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment des directeurs des musées en Afrique qui ont dit, bah non, cette déclaration signée uniquement par les grands directeurs, je crois qu'il y avait une seule femme, hein, les grands directeurs des musées occidentaux, c'est juste pour conserver nos affaires et nous, on n'adhère pas à cette idée de musée universel qui serait situé uniquement dans les grandes capitales européennes.
Émilie Gérard, quel est le positionnement de l'ICOM sur les questions des spoliations et des restitutions? Je crois que vous avez eu une déclaration assez claire là-dessus.
Oui, l'ICOM est très engagée depuis plusieurs années sur cette nécessité qu'ont les musées à travailler sur l'origine de leur collection, à le valoriser et à pouvoir discuter avec des propriétaires ou des personnes qui revendiqueraient la propriété de ces œuvres pour clarifier la situation. Je crois qu'on a profondément besoin de cette transparence, une transparence qui demande un énorme travail parce que les chaînes de provenance sont pas toujours claires, et qu'il y a un travail de documentation qui est engagé par les musées depuis plusieurs années, qui est un travail de longue haleine. Et je pense que peut-être qu'au début de cette réflexion, il y a eu des craintes des professionnels de se dire, mais on va se voir dessaisir de pans entiers de nos collections. Mais que cette crainte-là, elle s'est peu à peu apaisée. On a progressé sur le cadre légal, qu'on a progressé sur le cadre méthodologique, qu'on a progressé également au niveau de la discussion entre professionnels de différents pays sur ces questions-là. Et donc la position de l'ICOM, elle est vraiment celle-ci, c'est-à-dire travaillons sur la connaissance de nos collections, mettons nos fonds à disposition, discutons sur les lieux de conservation qui sont les plus appropriés et travaillons avec les différents interlocuteurs, que ce soit les États, les communautés, pour reprendre ce terme anglo-saxon, pour éclaircir les choses. Je crois qu'une trop grande opacité sur ces sujets est évidemment extrêmement préjudiciable à la crédibilité de nos institutions. Moi, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience qui est de plus en plus vive. On a, avec ICOM France, fait des débats sur ces questions, sur les restes humains, notamment, parce que ces restes humains, on en trouve dans beaucoup de collections, pas que dans les collections d'histoire naturelle ou de musées de zoologie, pas que dans des collections d'archéologie, il y en a vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'établissements. Et ce regard qu'on doit avoir sur la manière de traiter ces biens, il est fondamental. Donc, moi, je serais pas aussi, aussi pessimiste sur le positionnement des musées parce que, il y a des initiatives du ministère qui encouragent à la recherche de provenance, tout type de biens confondus. Il y a eu des financements importants qui ont été débloqués ces dernières années, avec des expériences un peu pilotes. Les musées de Rhône-Alpes ont fait un audit sur la provenance des collections. Les musées de Strasbourg aussi, on est en train de le finaliser, ce premier état des lieux. Les musées d'Angers y ont également travaillé. Paris Musée y a travaillé aussi. Donc ça, je vous parle d'un financement là qui a été conduit sur l'année 23-24 et qui permettent de pouvoir faire des états des lieux. Et je pense qu'on petit à petit, on se met le pied à l'étrier et que plus on en parle, enfin moi, c'est la position que je porte avec ICOM France, c'est-à-dire parlons-nous de ces problématiques pour les rendre... Peut-être qu'elle fasse moins peur pour qu'on se dise, ben, si on commence à réfléchir à ces questions-là, c'est pas pour autant qu'on va dépouiller nos musées, parce que on met le doigt, oui, sur des cas problématiques, et puis on met le doigt sur des cas qui, en fait, le sont pas du tout. Donc ça nous permet aussi vraiment de nous rassurer sur l'état de ces collections.
Didier Fusillier, est-ce que cette question des restitutions est un sujet au sein du Grand Palais RMN?
Alors nous, il se trouve que nous n'avons absolument aucune collection. C'est-à-dire que le Grand Palais est vide. Alors les SCN, nos fameux musées nationaux, en ont des collections, mais elles sont souvent anciennes. C'est l'archéologie, c'est la préhistoire, c'est la Renaissance. Donc ces questions-là ne se posent pas pour nous. Enfin, de ma connaissance, on n'a pas ces problèmes-là en direct dans l'institution, comme ce qui s'est passé pour le Bénin, tout ça. Donc je serais totalement incapable de répondre à ça. Mais enfin, évidemment, on peut comprendre que des œuvres qui ont été amenées en France... C'est souvent les œuvres de la Renaissance ont été achetées. Puis, par exemple, tout ce que Napoléon a ramené d'Italie a été rendu à l'Italie. Ce que vous voyez au Louvre, ça vient des collections des rois, mais qui étaient achetées à l'époque.
Il y a quelques-unes qui ont échappé, apparemment. Peut-être, notamment celles qui étaient en province.
Sans doute, oui. Mais enfin, en général, bon, ce que vous voyez dans nos musées, sont là et ils resteront.
Lotte Arndt, d'un point de vue vraiment pratique, pour qu'il puisse y avoir une demande de restitution, il faut d'abord des recherches de provenance et il faut surtout que les communautés sachent où sont les œuvres ou les biens culturels. Est-ce que ça, c'est un travail qui est fait actuellement? On imagine que ça concerne principalement les musées ethnographiques.
Oui, pas seulement. Alors, je pense le musée de l'armée. Alors, en effet, le musée ethnographique est très concerné. Le fait qu'on discute très peu du Louvre m'étonne toujours. Alors que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres au Louvre dont l'histoire des provenances et des acquisitions serait très intéressante à étudier, pour même pas parler des collections égyptiennes du Louvre et de la question des restes humains qui pourraient se poser à cet endroit-là.
La provenance, c'est la catégorie qui vient de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'art allemande.
Benoît de l'Étoile.
Et qui est très lié à la question des spoliations nazies, enfin l'idée de retrouver la provenance en termes de définir le statut juridique d'une œuvre. Donc en fait, effectivement, pour savoir quel est le statut juridique d'une œuvre, est-ce que sa possession est ou non légitime par le musée, on fait cette recherche. Donc ça a commencé bien avant le discours de Macron, enfin voilà. Dans cette question de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, quels en sont les propriétaires légitimes, est-ce qu'on a le droit de demander que certaines œuvres ne soient pas vues ou touchées par certaines personnes en fonction des tabous, est-ce que des œuvres qui ont été faites pour être uniquement vues par des initiés masculins peuvent être vues ou touchées par des femmes, est-ce que toutes ces questions-là qui sont posées, qui vont au-delà de la question de la restitution au sens juridique, étaient présentes déjà à l'époque. Donc le discours effectivement d'Emmanuel Macron à Ouagadougou propose l'idée de la restitution comme pilier d'une éthique relationnelle nouvelle entre la France, l'Europe et les pays africains. Donc effectivement, ça a relancé très fortement la question des provenances et la question des origines, notamment en rendant plus disponible plus de moyens. Parce que tout ça, ça demande effectivement des moyens pour faire des enquêtes qui sont longues. Donc c'est devenu effectivement une priorité au niveau français comme au niveau européen. Ça a aussi complètement bouleversé la donne du point de vue européen. Les Allemands, les Hollandais, les Belges ont aussi commencé à se préoccuper de ces questions-là.
Pour tout ce qui concerne les acquisitions, les enrichissements, les dons que nous recevons aujourd'hui et pour lesquels nous constituons des dossiers historiques et nous faisons des recherches de provenance extrêmement précises, mais on ne peut pas reprendre tout l'historique des deux siècles qui nous ont précédés. C'est un travail colossal que l'on fait petit à petit, au fil des opportunités, soit de ce qu'on appelle le récollement, qui est une obligation réglementaire qui fait partie de ce que doivent faire les musées de France, mais ou à l'occasion d'expositions, ou quand on travaille en particulier sur une œuvre, oui, qui va être exposée soit chez nous, soit ailleurs, et que on se repenche sur son dossier pour écrire une notice dans un catalogue, ou quand on prépare, oui, une étude sur une partie de la collection, mais le travail est tellement titanesque, puisqu'on conserve des milliers d'objets dans les musées, bien souvent, qu'on ne peut pas reprendre de manière systématique tout l'historique des provenances des objets de la collection, en tout cas pas dans un musée comme celui de Besançon, avec les milliers et les milliers d'objets qui y sont conservés.
Dans les réserves.
Dans les réserves, et ceux, même y compris ceux qui sont présentés dans les salles, mais oui, beaucoup sont effectivement en réserve.
Dans la plupart des musées, le pourcentage entre objets exposés et objets dans les réserves, il est de l'ordre de 2%. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'objets exposés au Quai Branly, mais il y a un nombre d'objets infiniment plus grand qui se trouvent dans les réserves, qui, dans le cas du Quai Branly, sont des réserves partiellement transparentes. Donc ils ont fait ce choix architectural de mettre en évidence, dans une sorte de réserve en verre, les instruments de musique. Les autres réserves sont invisibles au public et aussi invisibles aux chercheurs, chercheuses, à moins qu'on les sorte un par un pour des consultations sur demande.
Saskia Cousin, l'actualité, c'est la question des recherches de provenance. Mais finalement, pour arriver à faire ces recherches de provenance, il faut déjà savoir...
Qu'est-ce qu'on a ?
Voilà.
Et donc, pour savoir qu'est-ce qu'on a, il y a évidemment l'identification de biens iconiques, mais il y a aussi tout ce que personne ne connaît parce que c'est dans des réserves et certaines choses, certaines caisses n'ont jamais été ouvertes, de nombreux objets n'ont jamais été exposés. Donc finalement, des délégations qui viennent de différents pays, qui viennent dans les musées qui les accueillent en Europe, dépendent de ce qu'on va bien vouloir leur montrer. Et parfois, ce qui ne va pas du tout être considéré comme important pour un musée occidental va être considéré comme fondamental pour la délégation qui vient. On a fait comme ça, ça a été organisé par le Muséum d'Histoire de Toulouse, une semaine où des prêtres de Fa, enfin, des personnes sont venues du Bénin, elles ont identifié quelque chose qui était fondamental pour elles, et le muséum n'avait absolument pas compris que ça avait cette importance-là. Lui s'accrochait à d'autres choses qui ressemblaient à ce qui circule sur le marché de l'art, et qui a fait beaucoup rire nos collègues du Bénin, parce que pour eux, ils appelaient ça des gris-gris pour Américains. Donc, ils ne souhaitaient pas du tout les récupérer. Donc, on peut tout à fait trouver un accord, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui, notamment les premiers concernés, viennent identifier et savoir ce qu'il y a dans les collections.
Lotte Arndt, les recherches de provenance, elles sont prises en charge par les musées eux-mêmes ?
Par rapport à un moment, une dizaine d'années, où cette question-là se posait très très peu, ou exclusivement, quasi exclusivement dans le contexte des biens spoliés juifs. Aujourd'hui, les musées commencent à mettre en place des postes de recherche de provenance. Les universités accompagnent ces processus par des formations. Il y a un réseau européen qui se met en place, qui est une évolution à saluer. Elles demandent en même temps de faire attention que ces recherches de provenance ne deviennent pas une fin en soi et ne deviennent pas à nouveau un champ où le musée européen se recentre sur lui-même en réécrivant sa propre histoire, mais sans la perspective de ce changement des relations, de cette éthique relationnelle, comme le dit Felvinsar, Bénédicte Savoie dans le sous-titre de leur rapport. Donc de la question comment ce travail sur les collections coloniales peut induire des changements dans les relations internationales et culturelles aujourd'hui.
Je vais être un petit peu honnête.
Anne Lafont.
Bon, la réception du rapport est immense, internationalement, nationalement. C'est un texte auquel reviennent très souvent les étudiants, qu'ils veulent discuter, qu'ils veulent comprendre, dont ils veulent comprendre les impacts, qui a déclenché toutes sortes de recherches et même des formations. Il y a maintenant un diplôme de provenance à l'école du Louvre et un autre à l'université Nanterre. Donc, il y a des effets manifestes, très importants, qui transforment la discipline, pour le dire très clairement. Avec un texte inaugural, très ambitieux, très radical, qui a transformé vraiment la manière dont on pense les collections des musées. Alors, dans les musées, et ça, je dois dire que c'est un petit peu un trait constant de la vie des musées aussi, ça demeure assez tabou ou implicite. C'est-à-dire que l'idée d'un musée qui serait une réponse, par exemple, au rapport Sarre-Savoie, qui vraiment prendrait tout au sérieux ce qui est proposé dans ce rapport et qui dirait « voilà comment je vais prendre en charge mes collections désormais », on peut penser bien sûr au musée du Quai Branly et ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. C'est-à-dire de manière très très frontale et très pragmatique. Ça, c'est une discussion que je n'ai pas vue. Il semble qu'il y ait des volontés, des aspirations de conservateurs, de vraiment reprendre à zéro la question des collections, la question des collaborations. Et un exemple, l'exposition d'Akar Djibouti qui est actuellement visible au musée du Quai Branly, qui retrace donc cette mission du début des années 30 menée par Griol, avec en parallèle d'ailleurs du livre de l'Afrique fantôme de Michel Léris, donc qui est réexposé aujourd'hui autour d'une collaboration entre toutes sortes de conservateurs d'Afrique qui travaillent actuellement précisément dans les lieux par lesquels est passée la mission d'Akar Djibouti, qui ont fait un travail commun entre ceux de Paris et ceux africains pour élaborer cette exposition qui est formidable, qui ont repensé le cartel pour pouvoir en dire autre chose que ce qu'on dit traditionnellement de ces objets-là. Donc ça, c'est un type d'exploration de ce que peut être l'exposition rétrospective aussi, qui est très intéressant et qui prend acte de la question des restitutions telle qu'elle a été déployée par le rapport. Mais je dirais quelque chose, encore une fois, de plus direct, de plus explicite, de plus frontal de la part des musées, c'est difficile à le voir surgir. C'est des choses qui restent embarrassantes, je crois, pour une grande partie de la profession, les professions du patrimoine, et qui est néanmoins activée à l'aune d'initiatives individuelles, mais non pas institutionnelles, encore une fois.
Et puis vous avez la muséographie qui est par exemple présente dans l'exposition La mission Dakar Djibouti 1931-1933 Contre-enquête.
Benoît de l'Étoile.
Qui a été donc une vaste exposition collaborative menée avec des collègues chercheurs et personnes de musée en Afrique et en France. Et là, il y a eu une vaste enquête justement sur l'histoire de ces objets, puisque cette grande mission qui allait de Dakar à Djibouti pendant 2 ans, qui était une vaste expédition collective, qui avait justement pour but de ramener un maximum non seulement d'objets, mais aussi de photographies, d'animaux, de papillons, de poissons, d'oiseaux, etc. au musée. En fait, la contre-enquête a consisté justement à essayer de préciser quel était le statut d'acquisition de chacun de ces objets. En allant voir à la fois dans les notes de la mission, dans le journal, en allant voir sur place et en retournant sur place, les enquêtes étant faites souvent par les collègues africains pour aller voir par exemple à l'endroit en Éthiopie pour essayer de voir qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui de cette histoire et essayer de comprendre par exemple, comment tel objet il a été donné par l'administrateur, donc il y a bien un don, c'est ce qui figure sur l'histoire de l'objet, mais en fait il avait été avant confisqué par cet administrateur dans une mesure de police, par exemple à des gens dans une histoire de vol, etc. Donc dans la muséographie, la première chose qu'on a, la première information, c'est non pas le nom de l'objet ou le titre, c'est le statut, c'est-à-dire objet acquis dans des circonstances indéfinies, en telle année, à tel endroit. Objet acheté sur le marché, objet volé, objet réquisitionné, etc. Donc en fait, là, on inverse la façon de décrire l'objet, et la muséographie, justement, elle présente à la fois leur diversité, et elle essaye de repenser différemment la question de l'histoire de l'objet à l'époque, et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour les gens qui sont les descendants d'objets.
Daniel Abidjo, vous êtes conservateur du patrimoine, vous êtes originaire du Bénin et vous avez participé à la contre-enquête de la mission Dakar Djibouti, initiée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac. En quoi a constitué votre travail exactement ?
Donc la mission, c'est du 10 mai 1931 au 17 février 1933, donc c'est plusieurs années et c'est plus de 3500 objets collectés, plus de 300 manuscrits, donc des milliers d'objets qui ont été collectés. Et l'étape du Bénin, c'est du 4 décembre au 21 décembre 1931.
Donc, ah oui, donc c'est très court.
C'est très court, en fait. Alors, c'est des objets déjà qui ont été collectés, donc pour ceux qui le Bénin, pour rappeler un peu le contexte, il y a 352 objets donc qui sont conservés au Quai Branly, dont 33 manquants, donc on est à peu près à 400 objets pour ce qui concerne rien que le Bénin. Et la particularité pour ce qui concerne le Bénin, c'est que ils ont passé environ une vingtaine de jours, mais ils ont énormément collecté au fait. Ils ont collecté environ une vingtaine d'objets par jour. Des objets qui ont été saisis par exemple à Bupa, qui ont été ensuite donnés par l'administration coloniale à la mission. Les objets sont d'abord allés au Trocadéro, puis ensuite les objets sont donc passés au musée du Quai Branly. La contre-enquête de ce qui a été fait sur le terrain a consisté surtout à revenir au fait sur les traces de la mission en fait. Il s'agissait aussi de montrer par exemple des photographies des objets à des personnes qui détiennent un savoir au sujet de ces objets ou des personnes qui détiennent un poste de responsabilité dans la communauté. Donc ça peut être des rois, des chefs religieux ou toute autre personne. Et donc repartir vers ces gens-là, leur montrer des photos, déjà leur poser des questions sur les contextes historiques. Avant maintenant de rentrer dans le vif du sujet, d'aborder même la mission et de leur montrer les objets, donc déjà documenter la question de provenance et tout ça, mais aussi documenter l'usage de certains objets dont on ignore tout encore aujourd'hui.
La période charnière, la période où la plupart des objets qui sont aujourd'hui dans les musées en Europe sont entrés dans ces collections, se situe entre la conférence de Berlin, donc 1884-85, et les années 30 principalement. Après, on peut aller jusqu'aux années 60, tant qu'au moment des indépendances africaines, pour aller plus loin. Mais bon, la mission Dakar-Djibouti, par exemple, qui était ce dernier grand moment de collecte coloniale française étatique, a eu lieu entre 31 et 33. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a une sorte de pic de très très forte entrée d'objets dans les collections. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment-là coïncide aussi avec un changement dans la façon d'organiser les musées. Avec ma collègue Ariane Tevenio, qui est une conservatrice, on est tombé sur des archives du musée de technographie du Trocadéro, qui retraçait l'introduction, l'installation de ce qu'ils appelaient un laboratoire de conservation. Et cette installation de ce laboratoire accompagnait une idée de devoir changer la façon d'organiser la conservation des objets et de la transformer en conservation scientifique. Et que du coup, à ce moment-là, se met vraiment en place une autre démarche, et une démarche qui était, dans le cas du musée du Trocadéro, accompagnée de l'introduction d'une étuve toxique, donc on va venir à cette question des traitements chimiques, qui permettait au personnel de traiter d'une façon extrêmement organisée, très systématique, des grands pans de la collection avec des gaz de façon régulière afin de les garder plus longtemps, afin de pouvoir en extraire les organismes, notamment insectes, mais aussi moisissures, qui pourraient endommager, qui pourraient porter atteinte à la longévité de ces objets.
Vous travaillez, Lotte Arndt, sur la toxicité des collections. Une toxicité double, on va dire, c'est-à-dire d'une part la toxicité effectivement des produits chimiques utilisés pour conserver ces collections, mais aussi sur la toxicité même du recueil de ces œuvres, de ces biens culturels et de la façon dont on les a classifiés.
Oui, en effet, ce qui m'intéresse dans cette notion, ou avec le côté persistant de la toxicité au moment des restitutions, c'est qu'elle permet d'un côté de comprendre une modification chimique, donc matérielle, de ces biens, mais elle permet aussi de parler, d'aborder la dimension culturelle de ce que le musée européen a fait à ces objets par la dépossession, par la classification, par les manières comment les objets étaient traités, même en leur voulant beaucoup de bien. Alors tous ces traitements dont on parle n'étaient pas conçus pour les maltraiter, mais justement pour les conserver plus longtemps. Mais ce qui me semble important, en échange avec pas mal de collègues à travers le monde, c'est de dire comment en fait on comprend ce moment des restitutions, pas seulement comme un transfert qui continue à mettre la focale sur l'objet matériel, mais va plutôt mettre en avant les relations culturelles, la justice sociale, la réparation épistémique, la remise en droit de sociétés qui ont été dépossédées par ce processus-là. Et donc, d'un côté, on peut dire que c'est un moment positif que le musée arrive à vouloir questionner sa propre histoire d'acquisition, de réfléchir aux conditions souvent violentes de ces 3500 objets qui sont entrés pendant ces 3 ans dans les collections de ce qui était à l'époque le Musée de l'Homme. Et d'un autre côté, on se trouve face à une exposition où le musée est à nouveau le commanditaire d'un processus de questionnement qui est totalement contrôlé par son autorité. Alors du coup, une sorte de circularité qui fait en effet qu'on puisse demander si un processus de décolonisation peut être commandité et contrôlé par le colonisateur même, donc par l'héritier du colonisateur même. Et là-dessus, j'ai des doutes.
Moi, je suis contente que le musée prenne la parole. Le musée doit prendre la parole.
Anne Lafont.
J'aime mieux quand il le prend de cette manière-là que quand il le prend de la manière de l'exposition sur les zombies, par exemple. Donc, que ça ne soit pas final, que ça ne soit pas suffisant, qu'il faut qu'il y ait d'autres prises de parole, d'autres lieux d'exposition, très probablement. Mais je dirais qu'une initiative un peu concertée, un peu nouvelle sur le mode d'élaboration d'une exposition, avec des collaborations qui sont étendues, avec une réflexion sur la médiation via de la réflexion qui a été menée sur les cartels, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, que le travail ne soit pas fini, probablement. Qu'il soit nécessaire qu'il y ait d'autres lieux d'énonciation de savoir, très certainement. Que l'exposition devrait circuler, être confrontée à d'autres publics, très certainement. En revanche, je suis rarement, en tout cas, d'accord pour que le musée s'efface complètement de la discussion. Le musée a une responsabilité. Il doit l'assumer, une responsabilité historique, critique, problématique, mais ça n'est pas une raison pour se taire. Après, il ne doit pas éteindre les autres voix, qui doivent trouver leur propre lieu d'énonciation aussi.
Extrait du documentaire Dahomey de Mati Diop.
Constat d'état. Bon état structurel malgré des fissures et des manques. Description. Ce trône a été pris à Canaan, situé à moins de 20 km d'Abomey. Les dispositions des personnages sculptés montrent qu'il s'agirait d'une œuvre d'origine yoruba faite pour le roi. La partie supérieure du trône représente le roi sous son parasol, entouré de ses servantes. À l'étage inférieur, une file d'esclaves entravés évoque deux caractéristiques majeures du royaume. Sa politique expansionniste et l'asservissement des populations des régions conquises.
Daniel Abidjo, comment ça se fait que le pays dont on parle le plus concernant ces restitutions, c'est le Bénin? C'est parce que c'est le pays qui a été le plus spolié ou c'est parce qu'il y a une volonté politique ou une activité militante particulièrement forte?
Non, c'est surtout parce qu'il y a une volonté politique, parce que le programme du gouvernement, c'est révéler le Bénin. Donc il y a cette ambition-là de révéler le Bénin au monde entier, comme le dit le chef de l'État. Donc il y a un programme du gouvernement qui veut faire, au fait de la culture, des arts et du tourisme, le deuxième pilier de l'économie nationale. Et donc pour ça, on a créé des agences dans presque tous les domaines pour porter cette idée-là. Donc l'idée, c'est quand même de vendre le pays, au fait, de vendre le pays à travers son patrimoine, à travers le tourisme, au fait. Donc, s'il y a eu autant de bruit autour du Bénin, c'est parce qu'il y a une dynamique politique, une dynamique portée par l'État, d'autant plus que même après le discours de Macron, c'est quand même le premier pays aussi à recevoir les objets. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Depuis la restitution, les objets qui ont été restitués font partie de l'identité de tous les Béninois. C'est-à-dire que dans le nouveau passeport, les objets ont été directement intégrés. Ça, c'est le nouveau passeport. Donc ça, c'est les objets restitués.
C'est incroyable.
Donc, on se déplace avec les objets, en fait.
Merci à Daniel Abidjo, Dominique Poulot, Saskia Cousin, Amandine Royer, Émilie Girard, Anne Lafont, Lotte Arndt, Benoît Delétoile et Didier Fusilier. Documentation Annie Signoret, Archivina Émilie Lacot, prise de son Olivia Branger, Éric Audra, Marc Garvenès, Yvan Charby, Christian Lahondès, Jean-Baptiste Etcheparebord. Mixage Valérie Lavalard, chargée de programme Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Musée, la réinvention permanente. Dernier épisode, Le temps des restitutions. Un documentaire de Christelle Le Polothèque, réalisé par Agnès Catou. I'm
Africa.